Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.
Donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à une analyse théorique et critique du populisme. Alors pour discuter et développer cette analyse critique qui se fera sous forme de discussion, sous forme d'élaboration, c'est pas une théorie définitive du populisme, nous sommes avec Alain de Théorie communiste, qui a déjà effectué une autre émission très intéressante sur la Grèce, dans une autre émission de Radio Libertaire. Bonjour Alain.
Salut.
Alors du coup, comment est-ce que vous définissez le populisme à théorie communiste ?
Bon, d'abord, il s'agit bien du populisme à l'heure actuelle. Donc, pour situer la situation dans laquelle nous sommes, on est obligé de faire un petit retour en arrière, et de parler de la situation qui était celle du mouvement ouvrier, qu'on appelle généralement maintenant souvent le vieux mouvement ouvrier, qui existait jusqu'à la crise des années 70. Le vieux mouvement ouvrier, qu'on appelle programmatisme, c'est-à-dire le programme ouvrier, qu'on pourrait appeler le travaillisme, bien que ça permette de se tromper avec le Labour Party, c'est-à-dire en fait la promotion du travail. Le programme d'affirmation du travail, de libération des forces productives. Ce programme concerne aussi bien le marxisme que l'anarchisme. Avec deux pôles, puisque cette affirmation du travail passe par une autonomie de la classe ouvrière et une montée en puissance de la classe ouvrière. Ça forme deux pôles. Le marxisme du côté de la montée en puissance et l'anarchisme du côté de l'autonomie. C'est une relation dialectique éminemment conflictuelle, comme tout le monde le sait. Donc ce programmatisme est entré en crise définitive avec la crise des années 73, quadruplement de prix de pétrole, puis deuxième choc pétrolier 79. Et face à cette crise du capitalisme, la première réaction a été de continuer dans le keynésianisme, c'est-à-dire de continuer dans le soutien de la demande, ce qui n'a pas réussi et qui a débouché sur le passage à une stratégie totalement différente, totalement opposée, qu'on a appelée le néolibéralisme. C'est-à-dire, tout au contraire, l'attaque du salaire, la libéralisation du mouvement des capitaux, la mondialisation qui est un élément très important, enfin, la forme moderne de la mondialisation, parce que quand même elle a toujours existé, la forme moderne de la mondialisation qui avale toutes les barrières à la circulation des capitaux et des marchandises. Et ce sera d'ailleurs un élément extrêmement critiqué par ce que nous appelons maintenant le populisme. Donc, cette restructuration qui va durer jusque dans les années 90 verra la disparition du socialisme réel, l'Union soviétique, les pays satellites, le tiers-monde, puisqu'il n'y a plus de deuxième monde, il n'y a plus de troisième monde non plus, donc plus d'anti-impérialisme, et plus de mouvement ouvrier dans les pays où il est occidentaux, où il existait vraiment, c'est-à-dire en Europe occidentale surtout, en France, en Italie, en Allemagne, en Angleterre. Donc, tout cela fait une situation radicalement nouvelle, qui va entrer en crise radicale de nouveau en 2007, enfin, il y a eu une série de crises, parce que justement, comme la gestion keynésienne avait été abandonnée, les formes anciennes de régulation sont abandonnées, et la forme nouvelle, c'est les crises. Il y a une série de crises qui se passent à peu près tous les 5 ans, et qui culminent dans la grande crise de 2007-2008, qu'on connaît sous le nom de crise des subprimes. La crise des subprimes, c'est la crise des prêts immobiliers en Amérique, et qui est une crise de salaire en réalité, puisque justement le développement du salaire, du crédit à la consommation était là pour suppléer à la faiblesse du salaire. Donc cette crise des subprimes, que tout le monde s'accorde à considérer comme aussi grave, et même peut-être même plus grave que la crise de 29, qui a quand même débouché sur le fascisme au passage, donc on a là une situation qui est celle dans laquelle va naître ce que nous appelons le populisme. Parce que cette crise-là va, en tant que crise de la mondialisation, justement, réactiver, ou plutôt activer, un élément de défense, justement, des protections douanières, une défense de la nation. Ça va de pair avec une identité nationale très réaffirmée. Bon, on va s'occuper surtout de la France, évidemment, parce que cette défense de l'identité nationale peut prendre deux formes, une de droite et une de gauche, tout simplement, qui est un populisme, deux formes du populisme, populisme de droite et de gauche. Bien évidemment, ça tombe sous le sens, le Front National et ce qui était avant nommé Front de Gauche, qui maintenant a pris la forme de ce qu'on appelle la France insoumise. C'est-à-dire le courant d'un côté Le Pen et de l'autre Mélenchon, évidemment. Bien sûr, c'est insupportable pour tout supporteur de Mélenchon de faire une quelconque comparaison. Ça se comprend parfaitement. Il y a de radicales différences, une radicale opposition, mais des éléments réels de similitudes. Et en particulier, l'identité nationale, même si ce n'est pas sous cette forme-là qui est exprimée du côté de la France insoumise, c'est quand même réellement une défense de ce qu'il appelle ouvertement la patrie. Le thème de la patrie est constant chez Mélenchon, il n'y a aucun doute possible. Et s'il ne promeut pas immédiatement la sortie de l'Union européenne et de l'euro, l'articulation plan B et plan A postule évidemment ça. Et c'est, bien sûr, ça s'articule chez les deux avec la défense du fameux référendum de 2005 qui avait été le refus de la constitution, du traité constitutionnel européen, qui a été finalement fait directement par le Parlement, sous Sarkozy, c'est le traité de Lisbonne. C'est-à-dire qu'on a mis à la poubelle le référendum refusé de 2005. Massivement refusé quand même, hein, 55% contre. Et les deux côtés, aussi bien le nom de gauche que le nom de droite, c'est-à-dire Le Pen que le courant PC et gauche du PS. Même Fabius, à l'époque, était contre. Le PS avait déjà éclaté à l'époque là-dessus. Peut-être que l'éclatement actuel du PS est la concrétisation de l'éclatement qu'il y avait eu à l'époque. Donc voilà, le populisme, identité nationale, démocratie, c'est essentiel. On a deux populismes, on a un ethno-populisme, on pourrait dire, du côté de Le Pen, c'est-à-dire national-populisme, et un démo-populisme, ou populisme démocratique, du côté de Mélenchon. Ils sont différents, mais ils ont des éléments communs, comme je le dis. Et l'élément essentiel qu'on retrouve, mais pas exprimé aussi de la manière dont je vais l'exprimer maintenant, qu'on retrouve des deux côtés, et c'est en ça qu'ils sont ce que nous appelons populisme, c'est l'union, l'intégration de la société civile et de l'État, mais dans le cadre de la politique. Ce n'est pas une abolition de l'État, bien entendu. Ce n'est pas une abolition de la société civile, c'est une intégration, une osmose, une fusion voulue, hein, revendiquée, de la société civile et de l'État, dans le cadre de la politique, dans le cadre de l'État, finalement. Et en effet, ça se voit bien dans le recours permanent et au référendum, alors pour Mélenchon, c'est le rappel des élus. Il prend appui sur le recall qui existe dans deux États des États-Unis. Rappelle les élus, c'est-à-dire un élu pour lequel on n'a plus confiance, on peut faire une pétition demandant l'organisation d'un référendum pour le destituer. Je ne sais pas vraiment la forme que ça prend du côté de Le Pen, mais il y a quelque chose de ce genre-là, surtout dans le recours au référendum pour sortir de la zone euro. Et donc, cette unification de la société civile et de l'État, c'est la critique des corps intermédiaires, essentiellement des partis. Ça n'empêche pas que des deux côtés, il y a des partis qui existent, mais c'est des partis qui ne se veulent pas partis.
Et des lobbies aussi.
Ah, la critique des lobbies, bien entendu. Les lobbies, c'est surtout... C'est clair. Mélenchon donne l'exemple, il dit, voilà, je suis député européen, il y a des lobbyistes officiels, hein, des gens reconnus officiellement au Parlement, et il y en a, par tête de député, il y a 60 lobbyistes. Il dit, moi, je ne vois jamais. Évidemment, ils ne vont pas s'adresser à lui, ils pensent qu'ils n'ont pas trop de chance. Donc, moi, si je n'en vois jamais, imaginez que ceux qui en voient encore plus que 60. Parce que 60, c'est la moyenne. En effet, le lobby, c'est le pouvoir des multinationales. Et d'ailleurs, ça, c'est un point que le populisme a en commun avec ce qu'on a appelé à une époque le démocratisme radical, mais je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, oui. C'est l'importance de ce que le démocratisme appelait le capitalisme, mais qui est en réalité le pouvoir des multinationales. Le pouvoir des multinationales qui est, au sens propre, un scandale pour le populisme. C'est-à-dire que ça squeeze le pouvoir des États démocratiques. C'est un pouvoir qui est, en effet, transnational, donc qui est au-delà des identités. C'est exactement l'antithèse auquel ils s'affrontent directement. Le paradigme de la multinationale, c'est bien entendu Monsanto, qui non seulement est une multinationale anti-citoyenne, mais en plus anti-écologique, enfin, ça a tout pour plaire, quoi. Donc Monsanto, c'est un paradigme magnifique pour s'autodéfinir. On est l'anti-Monsanto. Donc pour la souveraineté populaire, souveraineté nationale populaire,
alimentaire.
Pour la souveraineté alimentaire, et donc le programme écologique qui est maintenant réintégré complètement dans le populisme.
C'est la démocratie contre les multinationales, un petit peu.
C'est la démocratie donc des peuples,
ouais.
Parce que c'est ça que
l'État.
Oui, c'est-à-dire que l'État démocratique et populaire.
C'est ça.
C'est la démocratie. Effective et pas simplement élective, pas simplement représentative. C'est une démocratie qui se veut directe. Ça, c'est très important. C'est la démocratie directe, c'est un élément aussi qu'on retrouve dans le populisme, dans la mesure où c'est l'intégration de la société civile dans le cadre de l'État, dans le cadre de la politique.
Et donc là, il y a une légère différence entre les deux formes de populisme, dans le sens où Mélenchon reprend quand même plus d'éléments du démocratisme radical.
Et du programme ouvrier.
Et du programme ouvrier.
Et du programme ouvrier, quand même. Parce qu'il insiste sur le fait, par exemple, d'avoir des représentants syndicaux dans les... Même à 50%, c'est en Allemagne d'ailleurs, que dans les conseils d'administration des entreprises, il y ait 50% de représentants du personnel. Et en plus, que le personnel soit prioritaire dans la reprise des entreprises quand elles sont en faillite. Il n'y a pas de nationalisation. Enfin, pas systématique. Éventuellement dans des cas où l'entreprise risque de passer sous le contrôle étranger. Ça, des chantiers navals, STX, qui sont repris par des Italiens. Et là, ça a même été évoqué par le gouvernement, une nationalisation transitoire. Mais ce n'est pas un programme de nationalisation. Ce n'est pas le programme de Mitterrand. Hein.
Non.
Le programme de Mitterrand est bien pire, entre guillemets, que le programme de Mélenchon. Le programme de Mélenchon, c'est un programme keynésien. Ce n'est pas un programme étatiste. Hein. Du tout. C'est très, très, très en retrait par rapport au programme de la gauche en 81.
C'est là qu'on voit l'intérêt de l'historicisation aussi de ces formes politiques, puisque c'est plus... Effectivement, on peut comparer un peu le programme de Mélenchon au programme de Mitterrand en 81, mais en fait, les situations sont très différentes.
Elles sont très différentes, surtout que entre-temps, l'Union européenne a fait des bons, et que, surtout qu'il y a l'euro maintenant. Là, on a un changement de fond. Comment mener une politique économique autonome quand tu n'as plus la maîtrise de la monnaie?
C'est le grand argument des souverainistes, d'ailleurs.
Absolument, justement, parce que la Banque européenne, qui est une banque indépendante, enfin, indépendante, ce qui veut dire directement bourgeoise, quoi. Qui prétend même pas être distinguée de l'État, de la classe dominante, puisqu'elle n'est même pas par le biais de l'État. Donc, c'est, oui, il n'y a plus de maîtrise de la monnaie. Et la question de la maîtrise de la monnaie est en effet essentielle dans le programme de Mélenchon et dans le programme de Le Pen.
Donc, c'est une caractéristique commune du populisme.
Absolument. Contrôler l'émission monétaire, c'est essentiel pour avoir une politique économique autonome, bien sûr.
Donc dans le populisme, il y a, dans un cas comme dans l'autre, l'illusion que la politique va diriger l'économie de manière positive.
C'est une illusion relative. On ne peut pas radicalement comme ça, dire que la politique n'a pas d'importance dans l'économie.
Oui, bien sûr.
Les politiques d'État existent.
Bien sûr. C'est une illusion relative, quand même.
C'est une illusion dans le sens qu'elle prétend, en fait, faire de la démocratie... Pour le populisme de gauche, faire pratiquement de la démocratie un mode de production. Ce qui n'est pas le cas du populisme de droite. Le populisme de droite, c'est le capital national, strictement.
C'est ça.
Tandis que pour le populisme de gauche, c'est le capital national démocratique. C'est presque la démocratie comme mode de production.
On le voit, c'est dans plusieurs points du programme de Mélenchon. La démocratie dans l'entreprise, les salariés qui ont un rôle dans la gestion de l'entreprise.
Oui, et surtout le fait que l'économie, avec le contrôle de l'émission monétaire, permet une orientation des investissements conforme aux besoins populaires et écologiques.
C'est ça.
Les besoins populaires et écologiques sont constamment intriqués, et puisqu'ils postulent même une modification des modes de consommation. C'est un peu quand même nouveau. Hein.
Donc il y a quand même l'idée que l'État, par son intervention dans l'économie, à travers des lois et des politiques économiques, peut donner un nouveau contenu au capitalisme, un contenu social et écologique.
Absolument, absolument. C'est un keynésianisme new look. Parce que le keynésianisme avait donc été liquidé après la crise de 70. Mais il faut vous dire une chose, c'est qu'en fait, ces populismes s'articulent à une tendance mondiale de crise de la mondialisation. On ne peut pas passer sous silence le Brexit et l'élection de Trump. C'est quand même massif. C'est-à-dire que la mondialisation qui a été constituée dans la restructuration des années 70-80, est en crise. Et les politiques qui avaient été abandonnées au profit du néolibéralisme et de l'attaque du salaire reviennent. Alors, vont-elles revenir réellement ou pas? C'est une vraie question. Mais la sortie de l'Union européenne de l'Angleterre est faite. Alors, ils étaient déjà un pied dedans, un pied dehors. Beaucoup disent que ce sera le contraire. Autrement dit, ce sera l'autre pied dedans, l'autre pied dehors. Je pense que probablement ça sera ça. Mais c'est quand même une décision très importante. Et Trump aussi. Et ce qu'il dit par rapport à la Chine, c'est fondamental quand même.
Donc il semble y avoir une nouvelle dynamique qui est l'accession au pouvoir du populisme, c'est-à-dire un recentrement autour de la nation. Et moins une dynamique de transnationalisation.
Oui. C'est parce qu'en fait, les politiques d'État qui ont été mises en place dans tous les États, avec la restructuration, c'était une dénationalisation des États. La mondialisation était non seulement une mondialisation du capital par les transnationales, mais c'était la politique de chaque État qui était le relais interne de la mondialisation. C'est très important. C'est pas simplement une mondialisation contre l'État. C'est chaque État qui en était le relais intérieur. Alors maintenant, le rôle est surtout attribué à l'Union européenne. Mais l'Union européenne n'est jamais que l'Union des États. Et la politique des Unions européennes n'est jamais que la politique sur laquelle les États se mettent d'accord. Donc c'est un peu facile de dire que c'est Bruxelles, évidemment. C'est une critique qui assez souvent faite. Mais n'empêche que, vraiment aussi, l'Union européenne était un relais réel de mondialisation. Mais c'est chaque État qui doit être renationalisé.
Oui, parce que le Conseil de l'Europe, par exemple, c'est les ministres des Affaires étrangères de tous les États.
Oui, le Conseil européen.
Le Conseil européen.
Bon, oui, bien sûr, c'est une instance intergouvernementale. Contrairement à la Commission qui, elle, représente les États, mais pas en tant que tel, représente les nationalités. Est-ce que là, le Conseil européen, qui est la deuxième instance décisionnelle à côté du dit Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée élue, qui en fait l'instance décisionnelle, c'est une instance intergouvernementale. Oui, bien sûr. En tout cas, bon, c'est ce que je disais, chaque État qui doit être renationalisé. En Allemagne, on le voit aussi. Hein. On a l'AfD, qui s'est constitué surtout après la flux des réfugiés. Mais l'AfD, c'est ça. C'est la renationalisation de l'État, qui avait une politique, certes, très nationale dans la défense du capital allemand, mais critiquable du point de vue national par rapport, par exemple, aux immigrés.
Et du coup, la différence entre ces différentes formes de populisme, parce qu'on voit par exemple AfD ou Theresa May, c'est des formes de populisme qui sont très libéraux. Même Marine Le Pen, elle parle de libéralisme national.
Theresa May, elle est directement du Parti conservateur.
C'est ça.
Le parti qui a promu le Brexit, c'est UKIP. Mais UKIP ne va pas être au pouvoir. De toute façon, le système électoral anglais l'interdit. Il interdit qu'il y ait un troisième parti qui compte réellement. Donc, ça se passe dans les deux partis, forcément. En effet, donc, Theresa May, elle peut endosser ce rôle dans le cadre du Parti conservateur. Oui, le libéralisme que dit Marine Le Pen.
Libéralisme national.
Bien sûr. Et c'est en cela, elle se différencie complètement de Mélenchon, bien entendu.
C'est ça, c'est un anti-libéralisme international, mais pour un libéralisme national.
Interne, oui, bien sûr.
C'est comme ça qu'elle concilie aussi à la fois les tendances souverainistes de son parti, menées par Philippot et tout ça, et en même temps bon, l'héritage de Jean-Marie Le Pen, qui lui était pour une révolution thatchérienne en France.
Oui, bien entendu, là il y a eu une évolution avec Marine, qui était une évolution... beaucoup plus fasciste, finalement. Beaucoup plus historiquement fasciste.
Dépassement du clivage...
Justement, une intégration d'un programme social. Alors que le père était plus pétiniste que fasciste. S'il faut utiliser les mots, c'est ça.
C'est ça. Mais sauf que ça prend une nouvelle forme, étant donné que la configuration historique a changé.
Ah oui, bien entendu. Je mets un peu des guillemets à tout ça. Mais le côté social, oui, c'est historiquement, c'est ça.
Et union, et aussi chez Marine Le Pen, mais ça, c'est une caractéristique qui est commune à tout le populisme, c'est l'union des classes nationales contre le grand capital financier international.
Mais même chez Mélenchon, attention, Mélenchon, c'est bien le peuple, c'est la défense des petits patrons. Il insiste beaucoup sur la défense des petits patrons, puisqu'il propose un taux d'escompte à zéro. L'escompte, c'est quand on a des traites, et pour encaisser l'argent comptant, parce qu'on est payé normalement à terme, on présente aux banques qui transforment la traite en argent comptant. Mais moyennant un taux, lui, il propose que ces traites soient réescomptées, c'est le taux d'escompte, réescomptées à taux zéro. C'est considérable comme proposition pour les petites entreprises. Ça veut dire qu'elles n'ont plus de délai de paiement. Elles sont payées tout de suite, sans intérêt.
Et aussi, elles ont un accès plus large au marché public.
Aussi, il veut créer une caisse d'investissement public. Et surtout, il demande la fin de l'indépendance de la Banque centrale. Alors, la fin de l'indépendance de la Banque centrale dans le cadre de l'Union européenne, de la zone euro, c'est ambigu parce que ça suppose une co-direction par les États. Et ce qu'il voudrait, c'est plus un plus grand poids de l'État français. Mais il insiste beaucoup sur le fait que, si on compare avec la Grèce pèse 2% de l'économie européenne, donc elle n'a aucune voix au chapitre, alors que la France pèse 18% et l'Allemagne 20%. C'est le grand avantage que la France aurait dans une négociation par rapport à la Grèce, qui ne pouvait absolument pas peser. En effet, il y a une dimension nationale, libéral pour Le Pen, je ne dirais pas anti-libéral au sens propre pour Mélenchon, mais disons social, à influence sociale. Pas socialiste du tout, hein, mais à influence sociale.
Et avec une forte intervention de l'État, plus que, parce que chez Marine Le Pen, il y a le concept d'État stratège, mais finalement, le concept d'État stratège, il renvoie un peu à une réactualisation du gaullisme des années 60, qui était en fait, effectivement, qui était beaucoup plus étatiste qu'aujourd'hui, qui était plus étatisé qu'aujourd'hui, mais qui impliquait simplement une espèce de direction, de redirection de l'économie qui reste libérale, mais disons pour l'orienter de manière à le rendre plus efficace.
Je ne sais pas si on ne peut pas dire aussi un peu la même chose pour Mélenchon, parce que ce qu'il appelle la programmation écologique, c'est pas très différent, hein. C'est plus précis.
C'est ça.
C'est ce qu'il appelle, par exemple, l'orientation à l'économie de la mer, qui d'ailleurs, du point de vue écologique, est tout à fait défendable, hein, il n'y a pas de doute, et la réactivation d'une agriculture paysanne, c'est l'État stratège, hein, il n'y a pas de doute. Hein.
Mais ça va encore plus loin, d'une certaine façon.
Mais c'est plus précis. Et surtout, c'est chiffré, c'est 100 milliards d'investissements.
C'est ça. Il y a vraiment une relance keynésienne, alors que Marine Le Pen, c'est plus ambigu, quoi.
Oui, le keynésianisme est vraiment du côté de Mélenchon. Ça, il n'y a pas de doute. Mais, dans les deux cas, la dimension nationale est essentielle.
Ah oui, ça, c'est clair.
Ça, il n'y a pas de doute.
Nationale, interclassiste.
Dans le discours de Marseille, par exemple, et là, il a dit, on attendait au tournant, il a dit, on m'attend au tournant, parce qu'en 2005, il avait félicité les Berbères et les Arabes d'être venus en France, et que, soi-disant, ça avait écouté des voix. Et il était attendu au tournant. Qu'est-ce qu'il allait dire en 2005? Il s'en est tiré en disant « Vive le peuple métissé !» Ce qui n'est pas la même chose. Ça tient lieu d'eux. Mais c'est une forme très amoindrie, très enveloppée de ce qu'il avait dit en 2005.
Oui, parce que sinon, il va se faire accuser d'islamo-gauchiste.
Oui, c'est surtout que l'apologie de l'immigration directement, il n'a pas repris du tout. Il a dit « je suis contre le droit d'installation ».
Oui.
Ah, c'est tout à fait clair.
C'est en ça où il tranche, par exemple, beaucoup avec le NPA, par exemple.
Ah ben là, il y a une différence totale. Ben, de toute façon, la politique du NPA n'est pas faite pour être appliquée.
Non, bien sûr.
Donc on ne peut pas comparer les deux, ça n'a aucun sens. Je prends le rôle du vrai leader politique qui dirait ça. Mais c'est vrai. C'est la différence entre une pure propagande et un programme qui veut vraiment s'appliquer.
C'est un programme de gouvernement, effectivement.
C'est un programme de gouvernement, il n'y a pas de doute. Alors, on ne peut pas dire qu'il sera au gouvernement, on ne sait rien, probablement pas, bien sûr. Mais c'est un programme de gouvernement.
Et du coup, peut-être maintenant, maintenant qu'on a vu un peu les grandes caractéristiques du populisme, recentrement autour de la nation, interclassisme, donc appel au peuple, le nouveau clivage peuple-oligarchie, et aussi un rôle beaucoup plus important de l'État et même limite sa fusion avec, au moins chez Mélenchon, avec la société civile. L'État va tout résoudre. Il va résoudre le racisme, le sexisme. Dans le programme de Mélenchon, l'État va abolir le patriarcat, tout ça, quoi. Et est-ce que quelles seraient du coup les différences qu'on pourrait faire avec les différences et les convergences et les continuités et les discontinuités avec le programmatisme d'une part et le démocratisme radical d'autre part?
Ah, c'est une vaste question. Bon, le programmatisme, de toute façon, donc l'affirmation du travail. Il ne s'agit plus d'affirmation du travail, mais il s'agit quand même, si ce n'est d'une libération, du moins d'une promotion et d'une orientation du développement des forces productives. Justement, il met l'accent sur le caractère physique du développement du capitalisme, plus que sur son caractère financier. C'est l'opposition de l'économie réelle, la dite économie réelle, à l'économie financière. Et ça, c'est une caractéristique du démocratisme radical, évidemment.
Et du populisme aussi.
Oui, donc c'est repris dans le populisme. C'est-à-dire que le capital financier est vu comme un parasite. C'est pas clair chez Le Pen, hein, ça. Pas du tout. Mais pour le populisme de gauche, c'est sûr. L'économie est parasitée par la finance. Et quel est le reproche que Mélenchon fait massivement à Hollande? C'est le fameux discours du Bourget. Mon ennemi, c'est la finance.
Mais il ne l'a pas tenu.
Et non, c'est un traître.
Et du coup, il y a effectivement, typiquement, comme dans le keynésianisme, une valorisation énorme de l'économie productive. Et
le capitalisme productif.
Voilà, c'est ça. Et le capitalisme improductif. Et là, là pour le coup, il y a quand même des similitudes avec le populisme tel qu'on le connaît depuis le 19e siècle, qui avait toujours exhorté, depuis Proudhon, depuis même plus longtemps, la production réelle et les parasites, quoi.
Oui, non, mais c'est une chose qu'on trouve qui est transhistorique, évidemment. Mais bon, évidemment, avec la restructuration des années 70-80, qui a été une financiarisation du capital, au sens propre, là, évidemment, l'antagonisme avec la finance est total. C'est les crises qui se succèdent jusqu'en 2008 sont des crises financières. Ce sont des bulles qui explosent. C'est du capital fictif qui, en effet, révèle sa fictivité.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça vient quand même de problèmes économiques réels.
Absolument. Absolument. La fictivation du capital, ce n'est pas une invention du populisme. Et l'explosion des bulles, ce n'est pas une invention des théories keynésiennes. Hein. Pas du tout. À ce sujet-là, je renvoie à la lecture du bouquin de Matic, Marx et Keynes. Gros pavé dont la lecture est indispensable. Voilà. Donc... oui, la critique du capitalisme financier est un élément essentiel et du démocratisme radical et du populisme actuel. En cela, il est promotion de l'économie réelle, de l'économie nationale et de la démocratie.
Et alors du coup, là on voit bien les continuités, mais du coup, qu'est-ce qu'il y a comme discontinuité entre le démocratisme radical qui, pour vous, globalement, c'est le mouvement altermondialiste,
quoi. Oui, mais la grande différence... La différence, alors pour le coup radical, c'est que l'un était sympa et l'autre pas du tout. De l'un, il fallait se défendre parce qu'il était l'ennemi intime. Et là, il n'y a pas à se défendre. La promotion du national est tombe sous le sens. Pour le démocratisme radical, c'était beaucoup moins évident. C'est une critique du mondialisme, mais en proposant un autre mondialisme. C'est l'altermondialisme.
L'alternative.
Et, oui, mais surtout l'altermondialisme. Il intègre le concept de mondialisme. Ce n'est pas du tout le cas du populisme actuel.
Qui, lui, suggère un repli.
Absolument.
Sur l'État et la nation. Ce n'est
pas du tout le cas du démocratisme radical. Le démocratisme radical, c'est une transformation de la mondialisation.
C'est ça.
Qui est promue.
D'une mondialisation économique à une mondialisation sociale et écologique.
Absolument. Ce sont les forums sociaux, par exemple, à travers le monde. Et c'est la proximité avec les Black Blocs. Proximité conflictuelle, mais proximité quand même.
Et c'est aussi
on n'a pas ça du tout maintenant. Hein.
La mondialisation aussi des luttes. C'est-à-dire, on voit très bien s'il y a
tout à fait,
Gênes,
tout à fait, tout à fait, tout à fait.
Alors que là, on est revenu
sur... C'est ce qu'on appelle les anti-sommets. Les mouvements se déplaçaient directement à Seattle, à Gênes, en Suède, je ne sais plus le nom. Voilà, c'était des mouvements qui se voulaient d'emblée mondiaux.
Donc c'était des formes de lutte mondiale, alors que maintenant on est plutôt sur des formes de lutte beaucoup plus nationales.
Absolument, c'est vraiment populiste.
C'est ça. Podemos...
Podemos, Syriza aussi, bien qu'il y ait des différences. Et le mouvement, disons mélenchoniste, en France.
Et du coup, le populisme, d'une certaine façon, a récupéré quelques idées, quelques miettes, disons, a récupéré un peu les restes du démocratisme radical qui est devenu ultra minoritaire.
Ah non, mais le démocratisme radical n'existe plus. On peut dire qu'il y a des résurgences par-ci, par-là. Par exemple, Nuit Debout, ça y ressemblait. C'est une étincelle, c'est rien, quoi.
C'est ça. La dynamique historique va vers le populisme.
Ah oui, complètement. La dynamique du démocratisme radical, elle est finie. Elle s'est terminée au milieu des années 2000. Elle dure 10 ans, en gros, quoi.
95
à 2004-2005, voilà.
Et ce serait quoi, du coup, l'événement... Alors, l'événement fondateur, on le sait, c'est les grèves de...
Pour la France.
Pour la France.
Pour la France, c'est la grande grève de 95. Et autrement, il y a d'autres phénomènes. Il y a le Chiapas, par exemple, évidemment. Et puis Seattle, c'était très important, qui a été soutenu par les syndicats, chose qui est peu connue, d'ailleurs. C'est l'antimondialisme, mais l'antimondialisme non national. C'est un contre-mondialisme, plus exactement. qu'un anti-mondialisme.
Et c'est ce qu'on voit par exemple chez quelqu'un comme Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu était...
Ah, tout à fait, c'est pour... le théoricien en France.
C'est ça. Et lui, il est pour une Europe sociale, il n'est pas contre l'Europe.
Ah, non, 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 mais Bourdieu, c'est le théoricien. Alors, je cite un autre bouquin, « Du grand soir à l'alternative », Alain Bia, merci. Je recommande sa lecture, s'il est trouvable, parce que justement, il dit en deux mots, dans son titre, le contenu même du démocratisme radical. Du grand soir, la révolution, à l'alternative, qui n'est plus une révolution, qui est une autre branche du capital, un autre développement possible du capital. Et ça se retrouve aussi dans le populisme de gauche actuel.
Mais la différence, peut-être, c'est que dans le cas du démocratisme radical, ce qui était promu, c'est le développement de coopératives paysannes, d'autogestion, comme en Argentine en 2001, etc., etc. Alors que dans le populisme, l'État joue un rôle beaucoup plus important.
Oui, mais c'est un État qui ne s'oppose pas à ce genre de choses, quand même.
Oui.
Qui éventuellement peut même le favoriser. Mais c'est toujours à la marge, c'est pas du tout un programme de développement d'autogestion.
C'est pas central dans le...
C'est pas central, ça peut être une façon de reprendre certaines entreprises en faillite. Voilà, ça, c'est une chose qui est admise d'un bon œil, c'est tout. Hein. La ligne générale, c'est un capitalisme orienté par l'État.
C'est ça. Clairement. Donc c'est là où il y a une différence, mais en même temps une récupération un petit peu par le populisme.
Il y a des éléments qui sont recyclés, oui, mais il y a des éléments du programme ouvrier qui sont recyclés aussi. Les choses ne s'éteignent jamais comme ça. Hein, c'est toujours une succession avec des enchaînements.
C'est-à-dire, c'est des continuités et des discontinuités.
Absolument, ça, c'est des enchaînements qui recyclent des éléments importants. Il n'y a pas de doute. Le thème de la démocratie est essentiel dans le populisme de gauche. C'est un démo-populisme. On peut opposer, comme je disais au début, ethno-populisme et démo-populisme. Dans les deux cas, c'est le peuple, mais fondamentalement, c'est pas vraiment le même, quand même. Le démo-populisme, il se dit officiellement de toutes les couleurs. C'est pas le cas de l'ethno-populisme, quand même.
Mais disons que, par contre... C'est un peu les deux définitions de la nation historique, c'est-à-dire la nation de gauche, c'est tous les Français sans distinction de couleur, de, etc.
Et qui démarre à la Révolution.
Qui démarre à la Révolution.
Qui ne démarre pas dans les Gaulois.
Oui, c'est ça, bien sûr. Et d'autre part, le nationalisme de droite qui, lui, dit non, juste les Français par le sang. Parce que sinon, il n'y a que les Français.
C'est une question de... Là, c'est des références historiques. C'est l'un récupère essentiellement la nation qui commence en 89, et l'autre se réfère à la nation qui remonte à Clovis, je ne sais pas moi, comme ça quoi.
C'est ça.
Et qui reconnaît surtout la chrétienté comme un élément, l'héritage chrétien, je crois que c'est comme ça qu'ils disent, comme un élément constitutif essentiel de l'identité nationale.
Mais d'un autre côté, dans les deux cas, c'est une défense de la nation. C'est-à-dire
dans
que
les
Mélenchon...
deux cas, c'est une défense de la nation. Mais l'identité nationale est un peu différente quand
c'est
même.
C'est ça. Mais quand, par exemple, on voit les propositions dans le programme de Mélenchon concernant les sans-papiers, les migrants, on voit que un programme, par exemple, entre guillemets, un programme altermondialiste du démocratisme radical aurait été un peu plus ouvert.
Mais c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au NPA. L'altermondialisme promeut l'ouverture absolue des frontières à tout le monde. Et ce n'est pas du tout le cas de Mélenchon. Mélenchon dit « je vais régulariser les sans-papiers qui travaillent ». Ça veut dire qu'ils ont des contrats. Il faut déjà avoir un contrat sans avoir de papier. Donc déjà, ce n'est pas des masses de monde qui sont régularisées dans cette histoire.
C'est ça, c'est pour contrer l'argument d'extrême droite, comme quoi c'est de la concurrence. Lui, c'est tous les travailleurs qui travaillent au même statut.
L'argument contre la concurrence, mais ça c'est aussi repris par Le Pen, c'est la question des travailleurs détachés. Mais c'est un vrai scandale, objectivement. Parce que les travailleurs détachés sont des travailleurs étrangers qui touchent certes le même salaire, mais qui sont payés qui ont des cotisations sociales du pays d'origine. Mais une bonne partie de ces travailleurs détachés sont français. C'est paradoxal. Ils sont embauchés par des entreprises étrangères pour être soi-disant détachés en France. C'est le comble de la rigolade, hein, honnêtement.
Oui.
Donc là, oui, en effet, là, c'est la défense du salariat national.
C'est ça.
Et d'ailleurs, une des critiques qu'il fait à l'Union européenne, c'est le fait que soit interdit par les traités l'harmonisation fiscale et l'harmonisation sociale. parce que les impôts ne sont pas les mêmes, donc délocaliser dans un autre pays d'Europe, c'est avantageux pour les impôts, et c'est avantageux aussi pour les charges sociales. Donc c'est une autre, c'est une délocalisation à l'intérieur de l'Europe. C'est un élément très important.
Donc il y a la volonté d'une espèce de juste concurrence capitaliste, quoi.
Tout à fait. Il critique la fameuse concurrence libre et non faussée, qui est complètement pas libre et complètement faussée. Ce qui est vrai. Il faut reconnaître les choses. Si ce n'était pas vrai, ça ne marcherait pas.
Mais la question,
c'est... Il faut quand même reconnaître ça, d'abord.
La question, c'est, est-ce que c'est possible d'avoir une concurrence juste dans le capitalisme?
Bien sûr que non.
Voilà.
Bien sûr que non, mais Mélenchon le sait très bien en même temps. C'est évident. C'est un slogan politique. C'est pas un vrai développement. Mais ce qui est vrai quand même, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la mondialisation est en crise. Ça, c'est pas une invention politicienne. Et là, on ne peut rien dire de la suite, au sens propre. Quand il dit qu'il y a des dangers de guerre, c'est son thème récemment, c'est pas faux, hein. Là. Du moment que la mondialisation entre vraiment en crise, les antagonismes entre les capitaux
ressurgissent.
Ils n'ont jamais vraiment disparu, mais disons, prennent des formes aiguës.
Entre la Chine et les États-Unis.
Entre la Chine et les États-Unis, oui, bien sûr, mais aussi avec la Russie, il ne faut pas se tromper non plus. Hein. C'est pas la même chose, mais ça existe aussi.
Mais par contre, la Russie, un des arguments que j'ai lu récemment, c'était que la Russie était tellement dépendante de l'exportation de ses hydrocarbures que ça rendait compliqué.
C'est parfaitement vrai. C'est parfaitement voilà. Vrai.
Par contre, et la Chine et les États-Unis, ça va être un peu pareil. Ça va être.
De toute façon, il ne faut pas oublier que les bénéfices de la Chine, c'est aussi des bénéfices des grandes des multinationales américaines en Chine.
C'est ça.
Le paradoxe est complet. Hein.
Donc, du coup, à l'état.
C'est la même chose pour le Brésil, pour le Mexique, bien sûr. Hein.
Et donc, à ce niveau-là de mondialisation, ça paraît très compliqué, en tout cas, de...
Ah non, mais je ne dis pas que la démondialisation peut se défaire. Je dis qu'elle est en crise.
C'est ça.
C'est pas la même chose.
C'est ça.
Qu'elle puisse se défaire, c'est très peu probable. C'est même pas possible.
Mais
elle peut se réorganiser autrement. On ne sait pas.
C'est ça. Et c'est ce que promeut Mélenchon avec son idée d'une espèce d'autre mondialisation, le protectionnisme solidaire, créer des alliances régionales. Oui, parce régionales. Que
Marine Le Pen, c'est le protectionnisme intelligent.
Voilà.
La différence entre les deux n'est pas claire.
Non. Et on voit au niveau de la... Maintenant, on a quelque chose qu'on n'a pas trop abordé, le relation du populisme aux affaires internationales. On voit que le populisme, de manière générale, se caractérise par, presque une sorte de désalignement complet.
Oui, c'est contre les aventures.
C'est ça.
C'est l'exemple typique, c'est la destruction du régime de Libye. Il, objectivement, comme on dit, était une catastrophe. Ça a été une guerre civile totale en Libye et le développement du djihadisme dans le Sahel. Enfin, c'est objectivement une catastrophe.
Et donc, il y a l'idée, voilà, par exemple, le rapprochement avec la Russie, qui est un peu quelque chose de... Là, pour le coup, qu'on retrouve chez tous les candidats populistes.
Oui, si on considère Fillon comme populiste. Là, je crois que non, quand ouais, même.
Tu penses que ça va au-delà, du coup
Dans cet exemple, voilà, c'est... Oui. Il y a aussi une dimension, comme le dit Mélenchon, d'ailleurs, gaullienne. Dans les rapports entre la France et la Russie, faut pas faire de l'histoire quelque chose qui commande l'actualité, mais une politique qui se veut entre guillemets indépendante et pas alignée sur les États-Unis suppose en effet un partenariat. C'est comme ça qu'ils le disent avec la Russie, évidemment.
Oui, c'est pour ça que dans le populisme français, il y a une référence un peu unanime à De Gaulle, quoi.
Ah oui, y compris avec Marine Le Pen, qui pourtant, pour les anciens de l'Algérie française, c'est pas trop ça, c'est pas trop des gaullistes. Hein.
Non.
Enfin, ils sont morts, je crois, largement. C'est aussi des postures, hein. Faut pas non plus voir plus que ça. Hein. C'est façon de dire au parti d'origine gaulliste qu'il l'est plus, enfin, quelque chose comme ça. Quoi que Fillon s'en revendique aussi, bon, c'est un peu compliqué, quoi. Mais là, ça n'a pas une grande importance. Ce qui est vrai, c'est que les interventions très risquées, Il y a une attitude de repli. Et alors là, Trump a étonné tout le monde, évidemment, puisqu'il avait commencé par dire qu'il ne serait plus interventionniste, et à la première occasion, il le fait. Et alors on ne sait pas trop si ça tient à la personnalité ou à d'autres choses.
Oui, c'est là qu'on voit la différence, je pense, qui est quand même quelque chose de central. C'est-à-dire que là, on a beaucoup examiné la question des programmes politiques, mais effectivement, un peu comme le fascisme dans ses campagnes électorales et le fascisme au pouvoir, c'est pas exactement la même chose. Le populisme en campagne électorale avec ses grands thèmes idéologiques et le populisme au pouvoir ne donne pas la même chose.
Ah non, bien entendu, à la limite, il peut pas être au pouvoir au sens propre.
C'est ça, il est obligé de ne plus être populiste.
Oui, il est obligé de. Obama était moins interventionniste que Trump, finalement, bizarrement. Donc. C'est à front renversé que l'affaire se joue.
Et c'est là qu'on voit la force de la continuité. Et c'est là où, effectivement, quand on voit la quantité de mesures qui sont proposées par Mélenchon, on est quand même un peu amusé, quoi. Dans le sens où on se demande comment est-ce que autant de mesures vont être prises.
C'est pas tellement l'ensemble des mesures, c'est plutôt l'orientation générale, si tant est qu'elle puisse être au gouvernement, hein, ce que je pense pas du tout. Mais si on prend l'anti-Mélenchon, c'est pas Le Pen en fait, c'est Macron. C'est la vraie politique qui pourra s'appliquer, c'est celle-là. Et celle-là, c'est une politique ultra-libérale, pro-européenne. C'est mot pour mot l'inverse.
C'est l'adaptation à la.
Ah, c'est la continuation de la dénationalisation de l'État.
C'est ça. Promu comme solution à la crise. Et le populisme en propose une autre.
Je ne sais même pas si c'est promu comme une solution à la crise chez Macron. C'est difficile à dire.
Comme une survie, disons, dans la crise.
Il faut passer par là. Il n'y a pas d'autre solution. Ça sera par là ou ça ne sera pas.
C'est ça.
Ouais, voilà. Ça peut ne pas plaire, mais il n'y a pas autrement. Il n'y a rien d'autre à faire. Il faut en finir avec le code du travail. Il faut en finir avec toute protection du marché. Et voilà, c'est la libéralisation totale, c'est la continuation de la politique de libéralisation, mais qui est en crise. C'est ça le paradoxe.
Et finalement, dans les deux cas, il y a une volonté d'adaptation à la situation économique. Dans un cas, c'est pour rester compétitif à un niveau mondial, il faut tacler le code du travail, en finir avec tous les vieux trucs issus du mouvement ouvrier du 19e
et du 20e. Et toutes les formes économiques aussi qui sont à liquider, toutes les formes industrielles qui sont déjà dépassées. C'est une destruction de toutes les entreprises qui ne sont pas au top niveau. Quoi.
C'est la restructuration complète.
C'est la continuation de la restructuration. La complète, elle est toujours complète d'une certaine manière. C'est la continuation, elle n'est jamais.
C'est ça. Alors que Mélenchon, d'une certaine façon, propose une autre restructuration.
C'est surtout la fin de la continuation.
Oui, c'est ça. Et une autre, finalement, un nouveau cycle.
Éventuellement, une nouvelle orientation, dans la fameuse économie de la mer, bon, on en a parlé. Et en effet, c'est le refus, par exemple, de la capitalisation totale de l'agriculture. C'est un point quand même important. La critique de la ferme des 1000 vaches, il fait beaucoup rire avec cette histoire de 1000 vaches. Et donc, ça lui en profite pour introduire la condition animale du coup. Donc, les végans doivent voter pour lui, à l'évidence. Ça fait pas beaucoup de monde, hein, quand même. Oui, il y a une fin de la restructuration et une réorientation dans un sens qui n'est pas dans le sens de l'augmentation de la compétitivité.
C'est ça.
C'est pas continuer la diminution. Le remplacement du travail par la machine, pour simplifier.
Mais c'est là qu'on voit quand même, du coup, là, une reprise de thème justement du démocratisme radical, c'est-à-dire faire
tout
autrement.
Tout à fait. La souveraineté alimentaire. Il parle pas de souveraineté alimentaire, mais en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Puisqu'il reprend le programme de la Confédération paysanne de Beauvais.
C'est ça.
Et Beauvais, qui était une figure imminente du démocratisme radical.
C'est ça.
Mais il ne soutient pas Mélenchon.
C'est ça. Mais effectivement, c'est là qu'on voit quand même une reprise. Des thèmes au moins à un niveau électoral, un petit peu comme d'ailleurs, toute proportion gardée, Mitterrand en 80 n'avait pas fait campagne que sur le programmatisme, mais aussi sur un côté changer la vie, arrêt nucléaire.
Oui. Enfin, c'est beaucoup moins évident quand même, c'est quand même le programme
Oui, mais
c'est classique, quoi. Oui, non, il y a d'autres éléments de modernisation, c'est sûr. Mais de toute façon, après, il a accepté même l'euro. Donc,
oui. Non, mais ça, on est bien d'accord. Et c'est là où, effectivement, quand on voit Mitterrand, on peut quand même qu'être sceptique sur si Mélenchon arrive au pouvoir. Enfin, entre le moment où Mitterrand commence à appliquer le programme et le moment où il y renonce, il n'y a que 2 ans.
Oui, c'est ça. C'est 81-82. En 83, c'est fini.
C'est ça. Et du coup, c'est là qu'on peut se poser. Mais est-ce que le populisme...
Je disais bien, à mon avis, c'est inapplicable. C'est pas inapplicable parce qu'ils vont essayer de l'appliquer et qu'ils ne réussiront pas. C'est qu'ils ne seront pas en position d'essayer de l'appliquer. C'est-à-dire que la configuration politique permettant la prise du pouvoir me semble pas réalisable. C'est ça. Le démocratisme radical n'a jamais pu constituer un mouvement politique au sens propre. Et ce n'est plus le démocratisme radical, c'est bien le populisme. Mais même le populisme, les conditions pour que le populisme prenne le pouvoir ne sont pas réalisées. En Grèce, ça s'est passé, mais il y a une situation radicalement différente. La gravité de la crise en Grèce était incomparable. C'était l'État qui s'effondrait en Grèce. Et ce n'est pas du tout du même ordre qu'on a ce qu'on a ici.
Et alors, imaginons quand même, par le plus grand des hasards, puisque l'indécision est extrêmement forte, mettons que Mélenchon arrive au pouvoir.
C'est la politique fiction, mais bon.
C'est ça, on est dans la politique fiction, mais là, on va assez vite se rendre compte que son programme est plus... C'est un programme de gouvernement, mais qui est extrêmement volontariste, c'est-à-dire on va faire ça.
Déjà, là, si on s'en tient à ce niveau de politique fiction, on est obligé de faire avec les éléments légaux qui existent, il faut déjà une majorité à l'Assemblée. Et là, je ne vois pas trop comment il aura une majorité à l'Assemblée. Au premier degré, déjà.
C'est ça, déjà.
Donc là, il y a un premier obstacle, à supposer que l'obstacle de la présidentielle soit passé. Avoir une majorité à l'Assemblée, ça semble impossible. Il faudrait que le PS se rallie à lui, déjà. Le PS déjà éclaté en trois. Ceux qui sont déjà pour Macron, ceux qui soutiennent Mélenchon et ceux qui restent entre les deux. Il faudrait que le PC se rallie à lui massivement, mais électoralement, c'est plus grand-chose. Il faudrait qu'il profite de l'effet de la victoire et de la victoire présidentielle pour surfer sur la vague et faire élire des députés à lui. Mais comment avoir une majorité?
Ouais, c'est ça qui paraît très compliqué. Et puis, c'est vrai que Mitterrand, lui, avait eu la fameuse majorité et il n'en avait pas fait...
Il avait une majorité, comme le PS actuellement, d'ailleurs. La présidence, c'est la majorité.
C'est ça. Et malgré tout, le programme n'avait été appliqué que pendant 2 ans, et finalement, après, ça avait été...
La fin de l'application du programme, c'est l'effondrement du commerce extérieur. Hein. C'est que la hausse des salaires a provoqué une hausse des importations et un déficit extérieur abyssal.
Et c'est là qu'on...
C'est exactement ce que la droite dit à Mélenchon, d'ailleurs.
C'est ça. Et c'est là où on peut...
Alors il objecte qu'il va combattre la publicité pour pas que les gens achètent n'importe quoi.
Ça reste volontariste.
Et aussi l'interdiction des importations des choses qu'on fabriquait dans des conditions esclavagistes.
Oui, de dumping social et contre le
dumping
social
extrême. Le dumping social, c'est pour l'Europe.
Oui.
Ah, c'est plus que le dumping social. Ce qui se passe au Bangladesh,
oui, bien sûr.
C'est plus de l'ordre du dumping social.
C'est ça.
C'est l'esclavagisme, quasiment.
Mais du coup, finalement, c'est une réponse presque... C'est presque une réponse qualitative et politique à une dynamique du capitalisme qui est quand même qui a pas qu'un côté qualitatif, mais qui a aussi un côté, disons, de dynamique structurelle plus ou moins implacable. Et il y a quand même un peu, je trouve, une forme d'illusion politique.
C'est l'idée de base, c'est le keynésianisme. C'est la politique de Keynes. Il faut soutenir la demande quand il y a manque de demande. Il faut combattre les rentiers, qui sont au sens propre des rapaces, hein, qui sont sur le dos de l'économie réelle. C'est le retour à Keynes.
Et pourtant, le retour à Keynes, on l'avait tenté dans les années 70. Il y avait déjà eu des plans de relance. Et
justement, c'est ce qui avait échoué.
Et ça avait échoué aussi en 80-83.
Oui, mais comme la mondialisation libérale a échoué, quelle est la troisième solution?
Non, c'est ça. Du coup, on voit, en fait...
Tu ne vas pas proposer la communication.
Ça paraît compliqué.
Surtout électoralement.
Ce qu'on voit, c'est effectivement que l'échec de la forme précédente justifie la forme suivante qui, elle aussi, sera un échec.
Mais c'est exactement... Quand on se gargarise en disant « Ouais, la crise arrive, ça va être la fin de tout », Mais c'est quoi la fin de tout?
C'est la fin du cycle.
C'est des fins concrètes, des fins réelles. C'est pas quelque chose qui se passe dans l'abstraction, la fin. Je dis pas que c'est la fin, du tout. Du tout. Mais tu dis à l'instant, une politique a échoué, on prend l'autre, mais l'autre échoue aussi. Ben oui. C'est comme ça que ça se passe, les choses. Et le développement de l'identité nationale, c'est pas très réjouissant. Mais c'est comme ça que ça se passe. Les conflits qui se tendent entre les États, rien d'amusant. Mais c'est comme ça que ça se passe. Être là en attente, haletante de la crise, avec un grand C, ça a quand même ses côtés obscurs, comme dirait l'autre.
Ça a ses limites.
Le côté obscur de la force, je voulais dire, bien sûr.
Et alors du coup, pour finir cette émission, donc voilà les solutions à la dynamique du capitalisme s'enchaînent et finalement on ne donne rien de meilleur les unes que les autres. Les propositions du populisme semblent aussi peu réalistes que celles du néolibéralisme ou que celles du démocratisme radical ou même que celles du programmatisme. Et on pourrait peut-être finir en 5 minutes sur du coup... La spécificité de théorie communiste, telle que je l'ai compris, c'est que ce n'est pas de dire nous, on a un programme qui est meilleur et qui est plus radical et qui est, volontairement, on va constituer un mouvement et on va abolir le capital, les classes, le travail salarié, tout ça. Mais c'est plutôt, c'est autre chose, c'est logiquement, on ne peut dépasser le capitalisme, la contradiction de classe, que par... la communisation. Est-ce que tu peux expliquer un peu ça?
La communisation, c'est la production du communisme sans production du socialisme. C'est-à-dire qu'on ne lutte pas pour créer les conditions du communisme, on lutte pour créer le communisme. Mais c'est une chose que déjà l'anarchisme disait. L'opposition à l'État ouvrier, à l'État marxien, que Bakounine fait, c'est pas essentiellement différent. Comme je le disais tout à l'heure, l'anarchisme est du côté, dans le cadre du programmatisme, du côté de l'autonomie, et le marxisme du côté de la montée en puissance, et ça fait une sacrée différence. Parce que l'autonomie sans montée en puissance, c'est en effet des mesures communistes immédiates, en fin de compte. Même si dans le concret, là où l'anarchisme réel a été puissant, l'Espagne, ça a été autre chose. C'était une forme de socialisme, de collectivisation, si on veut, mais bon, c'était alors, discussion infinie, était-ce déjà possible, ne l'était-ce pas encore? Là, le théorie communiste a une réponse avec beaucoup de guillemets, c'est que le capital a un arc historique. Et cet arc, et une particularité du programmatisme ouvrier, c'était de reprendre en lui-même l'arc historique. De dire, certes, on n'y est pas encore, mais c'est nous qui allons le faire. Le capital n'est pas arrivé au moment où on peut faire le communisme, oui, mais nous allons prendre le contrôle du capital et nous développons les forces productives pour pouvoir qu'on y ait, pour qu'on puisse y arriver. C'est une intégration du cycle du capital dans la lutte du prolétariat.
Et ça, c'est ce que d'ailleurs la CNT a dit, c'était Abad de Saint-Tiane disait, on va développer les forces productives pour pouvoir passer au communisme libertaire. Mais il est trop tôt pour l'instant.
C'est une affirmation essentielle de ce qu'était le programme. Oui, bien sûr. Et c'est ça qui est fini. Et c'est pour ça qu'on peut parler de communisation.
C'est ça.
Mais le problème, alors là, on ne va pas le soulever maintenant, c'est une vaste question. Pourquoi Marx, en 1844, pouvait parler d'abolition du travail avant que le programme existe? Ça sera l'objet de notre débat, si vous voulez bien. On peut dire que pour théorie communiste, c'est essentiellement une théorie autocritique. En effet, on ne promeut aucun programme. Et l'essentiel de ce qu'on fait, c'est se critiquer nous-mêmes en réalité. On critique la société, on va dire, constamment une autocritique. C'est une autocritique dans notre propre origine, dans l'ultra-gauche programmatique. C'est une autocritique dans le fait qu'on a raté le féminisme, n'avoir pas compris l'importance de la contradiction de genre et avoir attendu très longtemps avant de l'intégrer à côté de la contradiction de classe, c'est constamment une autocritique.
Parce que justement, ça c'est ce qui est intéressant, c'est que vous pensez, même la théorie critique, ou même le dépassement du capitalisme, comme immanent finalement au capitalisme, mais pas comme quelque chose qui... comme, pas comme la théorie critique qui vient de l'extérieur, ou le mouvement qui vient de l'extérieur.
C'est un peu une banalité, on pourrait dire. C'est évidemment une critique qui se source de la contradiction de classe. Nous, on dit les luttes sont théoriciennes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lutte de classe sans que les luttes produisent une théorie. Le principal que font les grévistes, c'est quoi? C'est parler. Ils font de la théorie tout de suite. Ils en font même quand ils ne sont pas en grève, bien entendu. Mais les luttes, c'est ça. Les luttes, on rédige un tract, on rédige des revendications, on élabore un discours. Elles sont théoriciennes, les luttes.
Elles sont théoriciennes, démocratistes radicales, populistes.
Elles peuvent avoir des formes théoriques différentes, avoir des contenus différents, mais toujours elles font de la théorie.
Et donc, c'est des théories.
On a la prétention de se mettre dans cette optique. Je dis bien la prétention, parce qu'on ne prétend pas lutter non plus. Hein. En tout cas, que la lutte théoricienne. Et non pas la lutte, les luttes théoriciennes, mais la lutte théorique, si on veut dire, elle n'a pas la prétention de se substituer à la lutte de classe. Mais elle ne se fait qu'en articulation avec, et en s'y penchant constamment. En fait, sa préoccupation essentielle, voilà.
Et du coup, pour finir sur la communisation, l'idée, c'est que à un moment... La contradiction de classe n'arrive plus à se reproduire, rentre en
crise. Tout à l'heure, j'ai parlé des contradictions, des crises réelles. Comment elles sont déclenchées? On a une formulation synthétique, on dit la communication se développe contre ce qui lui donne naissance. C'est la crise qui lui donne naissance, mais bien sûr, elle accentue la crise aussi, mais c'est contre la crise qu'elle se développe. Contre ce qui lui donne naissance. C'est-à-dire, à la fois, c'est une aggravation de la crise et une lutte contre la crise. La crise est aussi un développement capitaliste. Et, alors, comment les crises avancent? Mais la prise de pouvoir d'une forme populiste, si un jour elle arrive réellement à être possible, ça peut être un élément essentiel de la grande crise. Que les États entrent en crise au point qu'ils en arrivent à adopter ces formules, même si elles sont impossibles. Il y a un article qui s'appelle « Le pas suspendu de la communication ». C'est un pas suspendu. Ça se fait au travers d'une crise extrême et qui prend des formes différentes. Et des formes pas forcément très, très sympathiques. Oui, c'est pas le développement d'un programme qu'on fait, du tout. C'est la description d'une situation catastrophique.
C'est ça. Et qui peut-être arrivera pas, mais en tout cas, si elle arrive, ce sera la seule forme possible de dépassement du capitalisme, des classes.
Il faut que le capital entre dans une crise extrême. Mais la crise extrême, en même temps, c'est toujours le capitalisme qui est en crise. Et il y aura toujours une politique de restructuration, toujours une politique anti-révolutionnaire.
C'est ça. Et disons que finalement...
Il ne va pas rendre les clés.
C'est ça. La communisation, c'est... Finalement, c'est la restructuration ratée du capital, quoi, après une crise.
C'est contre une tentative extrême, ultime, de restructuration, mais une tentative violente.
Bien sûr.
C'est pas simplement se défendre, c'est une tentative de reprendre le pouvoir, de se réinstaurer, de se redémarrer contre laquelle on sera. Ah, c'est sûr, on va pas soulever le paillasson. Hein.
Non. Bon, et ben, merci beaucoup, Alain, de Théorie Communiste, de nous avoir... parler du populisme, du programmatisme, du démocratisme radical. Bon, on invite du coup les personnes qui sont intéressées par ces théories à lire donc évidemment le démocratisme radical de Roland Simon, qui a maintenant 15 ans, mais enfin qui est encore trouvable. Pour une version simplifiée et pédagogique du démocratisme radical, il y a une brochure qu'on trouve sur le blog Carbure sur l'impasse citoyenniste, qui est quand même très intéressante. Et pour la question du programme, du programmatisme, là on renvoie à tout ce que vous avez produit dans Théorie communiste. Et sur la question du populisme, du coup, c'est un article dans le dernier Théorie communiste.
Oui, c'est une séquence particulière.
Voilà, le numéro 25, dont de Théorie communiste, une séquence particulière. Voilà, donc on espère que ça vous a intéressé. Et merci Alain.
À bientôt.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.